Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis avec mon ami Rafik Djoumi.
Salut Steph.
Salut Rafik.
Unfucking believable.
Pour parler d'un film unfucking believable, d'un grand film. Pour une fois, on parle d'un putain de grand film, ouais. Vraiment. Bon, c'est pas vrai, on a déjà parlé de Congo et d'autres grands films comme ça, mais là... Il y a des films dans la vie d'un cinéphile, tu vois. Des fois, tu sais pas pourquoi. En fait, tu sais, ça devient le film de ta vie.
Ouais.
Et ce film-là, c'est le cas pour moi en tout cas. C'est un film que j'ai dû voir 300 fois, quoi, au moins. Non, j'exagère,
et
mais...
Tu m'as dit, un cinéphile doit accepter quels sont les films de sa vie.
Voilà,
et tu disais ça, l'air triste. T'avais pas le verre de whisky à la main.
Voilà. Mais ce film-là, c'est donc The Adventures of Fort Fairlane. En français, Fort Fairlane, Rock'n'Roll Detective. Alors, je dis en français parce que c'est sorti en VHS à l'époque.
Ouais, c'est pas sorti en salle,
direct ou vidéo. Parce que c'était assez étonnant. Bon, alors, pas étonnant parce que finalement, le comédien principal, on va en parler, Andrew Dice Clay, n'est absolument pas connu en France. Il l'était encore moins à l'époque. Là, il a tourné un ou deux Woody Allen, donc bon, forcément, il est un peu plus... les cahiers du cinéma savent qui c'est maintenant. Mais il était à l'époque totalement inconnu, c'est un comédien de stand-up. Donc là-dessus, c'est plus ou moins normal que ça sorte pas en salle chez nous. Ça a été un bide énorme aux États-Unis, on va en reparler aussi, mais... C'est un film de Rennie Harlin.
Produit par Joel Silver.
Produit par Joel Silver, ce qui est quand même en fait pas rien, parce que c'était la même année, sorti la même année que Die Hard 2, 58 minutes pour rire.
Exactement.
Dont on a fait un podcast avec l'ami Julien Dupuis. Alors, Fort Fairlane, Rock'n'Roll Detective, alors comment est-ce qu'on pourrait pitcher ce film? Parce qu'il y a mine de rien, c'est un ovni en vrai. Et c'est toujours, moi je viens de le revoir pour la 301e fois, c'est toujours un ovni. Enfin, pour moi, c'est un film, je pense que les gens qui débarquent aujourd'hui le regardent, ils peuvent pas vraiment le comprendre.
Bah, si, parce que la culture des années 80 a quand même été tellement, barbouillée par Internet dans tous les coins que finalement, il y a l'idée de. Comme c'est un film méta, Fort Fairlane, voilà, qui se fout gentiment de la gueule de l'industrie musicale de cette époque-là. Donc voilà pourquoi Rock'n'Roll Detective, parce que basiquement c'est un privé qui ne travaille que dans le milieu, que dans le business discographique, donc de l'époque à Los Angeles. C'est l'équivalent de Ace Ventura, mais pour les chanteurs et chanteuses. Et donc, du coup, il est à l'image de ce milieu, c'est-à-dire qu'il est une incarnation du rocker arrogant, machiste, misogyne, sûr de lui, etc.
Voilà, sauf que ça, à la base, c'est la persona publique de Andrew Dice Clay. C'est-à-dire qu'en gros, Andrew Dice Clay, c'est un comédien de stand-up qui, à la fin des années 80, remplissait en fait les stades avec son show. Qui jouait en fait en jouant ce personnage, en fait ce type de personnage là à la Fort Fairlane, et c'est pour ça qu'il a été choisi pour ce film là, c'est-à-dire un personnage ultra macho, ultra sexiste, ultra voire même raciste
et, aussi, oui.
Et beauf quoi. Mais c'était un personnage, c'est-à-dire qu'il jouait ouvertement ce rôle-là, c'est-à-dire que c'est pas lui, c'est pas Andrew Clay c'est pas sa personnalité, c'est vraiment un jeu. Sauf que ce qui s'est passé donc à peu près au moment où le film se faisait, c'est que donc Joel Silver, qui est très friand de tentative en fait, hein, pour être ta fenêtre, c'est pas Kevin Feige quoi, hein. Joel Silver, il avait une formule certes, mais il essayait beaucoup de choses différentes, ça en fait partie, hein. L'année suivante il fera Hudson Hawk avec une partie de l'équipe d'ailleurs, notamment je pense au scénariste Daniel Waters
ouais.
mais dans la même approche méta, où il s'est dit bah celui-là je vais le réussir cette fois-là, et en fait ça s'est planté pareil quoi. Il est allé chercher ce stand-up comédien parce que c'était quelqu'un de très populaire, suffisamment pour banquer un gros budget quand même, hein, parce que c'est un gros budget Fort Fairlane, de la Fox, sur cette comédie d'action. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il est devenu tellement populaire que le personnage lui a échappé et que tu as une grande partie en fait, de son public qui le prenait au sérieux et qui considérait, puisque le stand-up, c'est un peu la problématique du stand-up, hein, on le voit encore aujourd'hui, que quand les comédiens font des blagues et jouent des rôles, c'est considéré comme des vrais commentaires sur la vraie vie.
Et c'est surtout qu'on arrive à une époque où commence à éclore, notamment dans les médias et à Hollywood, l'idée du politiquement correct.
Oui.
Et le Fort Fairlane en est directement affecté. Dans une interview qu'il a donnée en 2007, Andrew Dice Clay dit que son film a été la première victime de ce mouvement politiquement correct. Et quand, basiquement, ils ont lancé la campagne sur son film. Ce que l'intervieweur met en doute. Or, moi, je me souviens très bien, à l'époque, avoir lu dans la presse, donc en
90, le film date
90,
de
90, voilà. D'avoir lu dans la presse, parce que je ne connaissais pas ce film, je ne savais pas d'où ça sortait. La première fois où j'en ai entendu parler, c'était par rapport à ça. Où, effectivement, on parlait d'un film qui avait été retiré des écrans aux États-Unis suite à des campagnes de ce qu'on appelle le politically correct. C'est la première fois que j'ai lu ce mot, en fait. Alors, à l'époque, c'était les deux comédiens qui portaient cet idéal, on va dire. C'était le couple Susan Sarandon et Tim Robbins. Ils étaient censés être l'incarnation du politiquement correct, ce qui n'est certainement pas le cas aujourd'hui, à mon avis. Ils s'en sont certainement détachés. Mais il est évident que le film en a clairement souffert, et d'après Andrew Dice Clay, le film marchait, c'est-à-dire qu'il considérait que la première semaine était plutôt correcte, mais qu'ensuite effectivement il a disparu la plupart des écrans, et qu'en gros ça l'a complètement tué, quoi. Donc voilà, c'est d'autant plus dommage que c'est précisément ce qui évidemment fait le sel de ce film, c'est ce personnage what the fuck, quoi, de type. Alors effectivement, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, la misogynie, elle est dans ta face, hein. Je veux dire, il y a une scène où il passe son temps à coucher avec des nanas qui l'envoient bouler aussitôt fait. Et il y a cette séquence où en fait il est avec deux meufs au plumard. Son réveil matin, c'est Jimi Hendrix à fond les ballons. Donc t'as les deux pauvres filles qui sont réveillées par une guitare électrique qui défonce la moitié de l'appartement,
hein.
Deux jumelles, voilà, et qui sont paniquées,
appel majeur, hein.
Voilà, qui sont paniquées, et lui, son premier réflexe en se réveillant, c'est de leur dire n'oubliez pas de faire la vaisselle.
Non mais c'est une caricature,
tout en allant se brosser les dents avec du whisky.
Voilà, et c'est un personnage en fait qui surnomme son sexe, c'est-à-dire il lui a donné un surnom, il l'appelle Stanley. Voilà, donc en fait tu t'es un petit peu avancé sur le film, Rafik, parce que là, c'est quand même la troisième scène du film seulement. Là, il faut quand même expliquer que, tu vois, c'est un personnage. Donc, en fait, c'est une parodie de film noir. C'est-à-dire, ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est là où la personnalité de Daniel Waters est assez importante. C'est que Daniel Waters, donc, c'est un scénariste qui est surtout connu aux États-Unis pour un film culte, très très culte aux États-Unis, qui est Heathers, Fatal Games. Ouais. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez forcément entendu en parler. Un excellent film, moi j'adore, enfin, très caustique, très noir. Et c'est quelqu'un qui, avec ce film...
Et qui est aussi responsable des dialogues que je trouve magnifiques de Batman Returns.
Tout à fait. Et c'est avec Ford Fairlane, en fait, qu'il est rentré dans la cour des studios et que d'un seul coup, plutôt que d'écrire des projets à lui, il s'est mis, en fait, à réécrire les projets des autres.
Oui.
Et en l'occurrence, moi, je l'ai interviewé plusieurs fois, Daniel Waters, et ce qui était assez marrant, et il l'assume complètement, c'est que Daniel Waters, c'est un énorme cinéphile. C'est quelqu'un, en fait, qui regarde 300... Alors, pas en ce moment, puisque les salles rouvrent à peine, mais donc pas l'année dernière, je veux dire. Mais en fait, c'est quelqu'un qui voit 300 à 350 films au cinéma par an. Et qui fait des listes, cinéphiles, etc., etc., si vous le suivez sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui a une cinéphilie énorme, c'est-à-dire qu'en fait, et surtout sans hiérarchie, c'est-à-dire qu'il peut à la fois être fan de néoréalisme italien, comme de cinéma d'action de Joel Silver. Et en gros, quand son agent lui a proposé tous les films qu'on lui mettait en avant, en lui disant voilà, qu'est-ce que tu veux travailler sur tel projet, il y avait notamment par exemple la suite de Beetlejuice, ce genre de choses, etc., etc. Lui, il a bossé, je crois même on lui a proposé de bosser sur Super Mario Bros par exemple, enfin bref, etc., etc. Lui, quand on lui a dit Joel Silver, il a fait ouais, ça je le fais. Il est venu parce qu'en fait il adore le cinéma de Joel Silver. Il adorait notamment, évidemment, il considère que Die Hard est un chef-d'œuvre. C'est une des raisons. Et en gros, quand on lui a proposé ce film, Fort Fairlane, c'est comment dire, à la base un scénario
de James Capp et David Arnott,
voilà, qui est relativement sérieux. Mm. Qui est adapté, si je dis pas de bêtises, d'un comic strip en fait,
ouais,
ou d'un voilà.
Alors c'est pas un comic strip, c'est des courtes nouvelles en fait,
oui, voilà,
qui étaient parues dans le New York Rocker et dans LA Weekly à la fin des années 70.
Mais qui étaient relativement sérieuses aussi, non, je crois.
En fait, oui, il y a eu à la fin dans les années 70, fin des 70s, un film comme Chinatown par exemple, etc., a eu beaucoup d'impact sur la culture pop américaine. Voilà. Ouais. Et donc cette image du privé, elle a été tournée dans tous les sens. À l'époque, à la fin des années 70, on a aussi Roger Rabbit, le bouquin, qui est publié, qui est aussi l'histoire d'un privé, mais sauf que le décor devient bizarre. Donc là, dans Roger Rabbit, le décor, c'était la ville d'Hollywood avec les Toons. Et là, chez Fort Fairlane, c'est l'industrie musicale Los Angeles, mais une version déglingué de cette industrie musicale. Donc les nouvelles originales, elles jouaient un peu de quand même de la parodie, mais tout en étant écrites comme de vrais de vrais polars.
Et celui-là, en fait, je pense, à mon sens, qu'il a été écrit à la base comme un film d'action assez classique. Finalement, David Arnott, c'est un des scénaristes de Last Action Hero, et
qui était à l'époque une excuse pour signer des deals en fait avec l'industrie musicale, parce que l'idée c'était d'avoir des chansons. La chanson titre, elle est de Billy Idol, hein, quand même, qui était une star à l'époque.
Ouais. Donc, en fait, Daniel Auteur s'est arrivé et a complètement subverti ça, on va dire. Et finalement, en fait, c'est quand même de la subversion, parce que tu disais que c'est un film qui a subi le politiquement correct, mais c'est un film qui est impossible, littéralement impossible à faire, même ne serait-ce que 15 ans après. C'est-à-dire, sans même parler d'aujourd'hui, hein, vraiment parlons de, tu vois, en 2005, ce film-là ne se faisait pas, en fait. Et là, pas pour des raisons... je pense financière, hein, mais pour des vraies raisons en fait de voilà, t'as des gosses qui jurent, t'as des références sexuelles explicites, mais tout le temps t'as de la nécrophilie. T'as un gag nécrophile en fait dans le film, quoi. Enfin, t'as énormément de trucs en fait qui vont finalement assez loin. Évidemment, c'est pas nécromantique. C'est pas ce que je dis en fait. Mais
c'est une grosse production. Voilà. C'est un gros film d'action. C'est par le producteur de L'Arme Fatale. Donc ça arrive quand même sur tous les écrans.
Torpillé. Voilà. Voilà.
Et effectivement, c'est un objet un peu sulfureux à une époque qui commence à redouter le sulfureux. Donc oui, c'est une page qui se tourne. Fort Fairlane. On peut presque s'en servir pour faire une thèse d'histoire sur l'évolution culturelle américaine de ces dernières décennies, quoi. Ça a été un vrai tournant. On ne peut plus faire ça.
Voilà. Et le truc, en fait, c'est que dès le début, c'est-à-dire dès même avant la scène que tu as décrite avec les deux jumelles, avant d'arriver là, dès le début, il y a déjà, en fait, une approche méta. C'est-à-dire que ces deux jumelles-là, il les croise dans une boîte de nuit au début.
Ouais.
Quand la nana lui demande son numéro de téléphone, il lui donne un numéro, c'est 555, il lui donne le numéro, et elle l'arrête, elle fait « Mais attends, 555, c'est de la connerie, c'est un numéro de cinéma. » Et là, le mec la regarde, enfin, Fort Fairlane la regarde, et lui fait « Mais tu crois quoi, que c'est la vraie vie ?» Et en fait, voilà, d'entrée de jeu, tu sais que t'es dans un monde de cinéma. D'entrée de jeu, tu sais qu'en fait, ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire, que c'est une manière de détourner, voix off comprise, le film noir, en fait, des années 40-50. Et voilà, en fait, le détective à la Humphrey Bogart qui, d'un seul coup, en fait, et c'est un jeu sur ça. C'est-à-dire que vraiment, dès le début, tu sais très bien que non seulement tu ne peux pas prendre au sérieux ce personnage-là, tu ne peux pas prendre au sérieux ce film-là, mais même ce film-là ne prend déjà plus au sérieux le cinéma d'action qui est produit par Joel Silver, et qui sera réalisé ensuite par Ernie Harlin, parce que ça, il faut en parler aussi, c'est Ernie Harlin qui a tourné le film, qui à l'époque en fait venait de passer un an chez la Fox a essayé de développer Alien 3 sans succès, et que en gros il était vraiment en train de se demander quel serait son prochain film, et il savait que ça serait un film de studio. Donc d'un seul coup, grâce
à ce
film-là...
Pour préciser qu'il sortait du petit cinéma d'horreur, il avait fait Prison avant, et le Freddy 4, merci. 4, ouais. Et donc bah, du coup, effectivement, c'était son premier vrai blockbuster.
Et avec la volonté de faire du gros cinéma d'action. Il était très jeune à l'époque, il avait je crois 28-29 ans, et c'est d'ailleurs ce film-là qui lui a permis d'avoir les rênes de Die Hard 2. Quoi.
Et ce qui rend effectivement Fort Fairlane jouissif, surtout pour nous qui le découvrons à l'époque en vidéo, c'est de réaliser que c'est un vrai film d'action de Joel Silver de cette époque-là. Ah ouais, c'est shooté comme ça aurait pu être effectivement un Arme Fatale bis, quoi.
Mais avec un détournement. C'est-à-dire qu'avec cette idée que, en fait, on détourne le cinéma d'action aussi. C'est-à-dire qu'on ne détourne pas que le film noir.
On ne détourne pas que... bien sûr. Voilà. On déconstruit ses codes, etc. Avec les répliques de Daniel Waters qui sont elles-mêmes toujours de la déconstruction. Enfin, je pense à cette réplique que je trouve absolument merveilleuse où, justement, dans la discothèque, il tombe sur sa, comment dire, le gars qui est recherché, qui essaie de fuir, quoi. Et là, il y a ce plan cinégénique au ralenti où il sort son flingue très calmement en disant so many assholes, so few
tellement
bullets.
De cartouches, tellement de connards,
tellement
si
de connards,
si
peu de cartouches. Voilà, où il tire dans la boule de la boule facette, disco, voilà, ouais. qui tombe sur la tête de sa victime. Et là, la réplique absolument parfaite.
Clint Eastwood, I fucked him.
Ouais. Voilà.
Et mais c'est une manière de dire, en gros, c'est une manière de dire, on va se moquer de tout ça, on s'en fout, et en fait, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que, voilà. Donc, à partir de là, la figure du macho, en soi, elle est déjà, en fait, tu sais déjà qu'elle est complètement détournée. Mais par contre, il la joue, c'est-à-dire le personnage d'Andrew Dice Clay, Ford Fairlane, le joue toujours straight, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment, c'est le film qui se fout de sa gueule, il n'y a pas un moment où lui, en fait, remis en question dans son emploi, en fait, peut-être éventuellement par son assistante, peut-être par ce genre de truc, mais c'est vraiment juste par rapport à son comportement. C'est-à-dire que c'est le film qui dit regardez-moi ce gros blaireau, quoi. C'est-à-dire il y a un côté comme ça, quoi. Et en même temps, il le joue tellement bien que il reste hyper attachant, en fait. Moi, je le trouve super dans le film Andrew Dice Clay, quoi.
Mais même le racisme du personnage, il est finalement contrebalancé par le fait que se prête au jeu des vrais représentants de la culture funk de l'époque. Moi, j'étais ravi, parce que on les voyait jamais au cinéma, de tomber sur Maurice Day, par exemple, de The Time. Après, il y a mon crush d'adolescent qui était Shelley, qui était vraiment cette femme absolument magnifique et excellente batteuse, soit dit en passage. Voilà, Maurice Day et Shelley, pour resituer, ils font partie du cercle de Prince, en fait, à l'époque. Et qui, en fait, enfin, il y a un rapport amusant avec ce personnage qui représente effectivement une beaufrie white des années 60.
Ouais, et puis en fait, il portait
Elvis Presley en lui, quoi, voilà. Si tu veux, et tout le reste.
Mais
tout,
c'est un personnage qui
à ses yeux, toute la musique qui est produite à son époque, c'est de la merde.
C'est déjà un vieux con, fait. C'est-à-dire quand il se retrouve en face de Tony Locke, justement.
Tony Locke,
qui fait une apparition, un caméo. Il est en train de rapper dans la rue, et l'autre, il lui dit « Vous pouvez pas aller me casser les oreilles ailleurs, là, cassez-vous. » Et l'autre, il fait « Ouais, mais le rap, c'est la musique du futur. » Il fait « Oui, j'adore, et tout, tu pisses casse, tu vois. » Et en gros, les mecs savent qu'il est en train de se foutre de leur gueule, quoi.
Et il y a ce personnage de flic, parce qu'évidemment, dans ces films-là, il est toujours censé avoir le flic qui se met en travers du chemin du détective, puisqu'il bosse sur les mêmes noms, qui faisait partie d'un vieux groupe de Beach Boys à la con, là,
de disco,
voilà,
Booty
Time, c'est
Booty
ça,
Time, ouais,
Across the USA,
voilà, et qui est joué par le père de comment dire, la série Marié deux enfants, donc c'est quand même beauf versus beauf, quoi. Et en fait, le Ed O'Neill, je crois, si je dis pas de bêtises, pour son nom, quoi. Et en fait, le truc qui est vachement intéressant, c'est que quand je dis le film se fout de sa gueule à lui, c'est-à-dire que, en gros, par exemple, t'as des scènes d'action à la Joel Silver, t'as par exemple une baraque à Malibu qui se fait sauter, qui explose, en fait, si tu veux, et ils sont là devant, ils se font voilà. Et comme ils ont couru, comme ils sont un peu en sueur, si tu veux, le premier truc que Ford Fairlane fait, c'est qu'il se remet les cheveux avec de la laque et tout, en passant, quoi. Pareil, ils sont en train de chuter du haut du Capitol Records, tu vois, voilà. Ouais. T'as un plan, en fait, pour simuler, soi-disant, la chute, avec la caméra qui fait 360 degrés sur elle-même et tout. Et en gros, t'as chaque personnage qui mime, mais de manière outrancière, la chute, tu vois,
en criant, voilà.
En criant, et lui, en fait, il est comment t'appelles ça, il est en train de se remettre les cheveux.
Non, il est en train de dire « my hair, my hair », il s'inquiète parce que ses cheveux sont en train d'être décoiffés. Mais oui, bien sûr qu'on est dans la déconstruction, on est dans la citation aussi régulière. Tu disais que Daniel Waters, voilà, gros cinéphile, mais du coup, il fait de Ford Fairlane un amoureux de cinéma aussi. Quand il monte sur le toit du Capitole, il ressort la réplique de James Cagney,
«
L'enfer est à lui », par exemple.
Ouais. Parce que, Top of the world, man.
Ce qui est même, en 90, ce n'est déjà plus commun
à cette époque-là, peut-être plus aujourd'hui, mais à cette époque-là, le cinéma classique américain était souvent diffusé à la télé tard le soir, et t'as beaucoup étrangement, même parce que par exemple chez nous ça a été perdu en France, mais en fait t'as beaucoup de cinéphiles, en fait, américains jeunes, qui se sont formés en regardant la télé, quoi,
ouais. Quand tu parlais donc de la maison de Malibu qui explose, donc c'est en fait il se traballe une espèce de gourde qui s'appelle Zuzu Petals,
rien que le nom nom, déjà, voilà, c'est un chef-d'œuvre.
Et en fait, le nom Zouzou Pétales, c'est même pas le nom d'un personnage, c'est le nom d'une réplique de La vie est belle de Frank Capra.
Ouais.
Donc le film est blindé de petites choses comme ça. Et aussi au niveau musical, il y a plein de petites références. Bon, on retrouve des gueules qu'on n'est pas habitué à voir. Vince Neil de Motley Crue qui apparaît là-dedans.
Qui se fait tuer au début, en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est le truc qui ouvre l'enquête, en fait. C'était la mort d'un chanteur, Bobby Black.
Et pour souligner le caractère justement graveleux, incorrect, etc., je crois qu'à un moment donné, il était question que le DJ soit, parce qu'il y a un DJ de radio important dans l'intrigue, qui soit interprété par Howard Stern, qui est clairement la référence
voilà. du personnage, quoi. Mais alors, je sais pas, encore une fois, là, si la façon de parler du film dont on a de parler, parce qu'on le connaît bien.
Est-ce qu'on donne une bonne idée de ce qu'est le film? Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut donner une bonne idée de ce qu'est le film par rapport à tout ce truc méta de Joel Silver qui se fout de la gueule de son propre cinéma. Il y a une scène hyper bien filmée au sens à la Joel Silver où il rentre dans son appartement. Un peu plus tôt dans le film, on lui a offert un koala.
Alors, ça, faut expliquer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un détective rock pour le rock'n'roll, enfin, rock'n'roll détective pour les stars de musique. Et les stars de musique sont tellement excentriques qu'au lieu de le payer avec de l'argent, en fait, elle le paye avec des goodies, en fait. Mmh. Et en gros, par exemple, les nanas qui l'aident au début, elles lui filent une montre en or. In Excess lui envoie un koala. d'Australie, en fait. Et en gros, le koala, ça devient plus ou moins un personnage secondaire qu'il garde, en fait. Voilà, qui est un koala en animatronique. mais voilà. Et donc, t'as effectivement une scène de détournement.
Voilà, où il rentre dans son appart qui a été, comme, en gros, visité par les bad guys et
qui lui laisse un message.
Et qui lui laisse un message. Et le message, c'est qu'ils ont pendu son koala. Ouais. Mais la scène, la façon avec laquelle c'est mise en scène, je veux dire, c'est vraiment, il faut imaginer, le travelling avant avec la musique à la Michael Kamen, quoi, hyper dramatique. Il y a rien de comique dans la séquence.
C'est le koala.
Voilà, si tu remplaces le koala par une jeune fille, c'est vraiment l'arme fatale 2 que tu es en train de mater à ce moment-là. Et c'est ça qui rend le film croustillant, surtout pour les gens qui sont bouffés des films d'action à cette époque, quoi.
Voilà, et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les mecs, ils continuent derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il se fait attraper par les deux gars, il essaye de se débattre et tu sais, il fait un cri et les deux gars l'attrapent et ils disent c'est le bruit que t'as fait de ton koala quand on l'a pendu. Donc en fait, les mecs ils détournent même les punchlines, tu vois. Parce que t'as tout ce truc en fait de, par exemple, le méchant qui est joué par Wayne Newton, là, qui était une espèce de crooner, à vieille dame, là, tu vois, enfin, j'ai envie de dire quoi. Beaucoup de masculinité déviante, comme j'aimerais bien dire. C'est un grand méchant qui se met à faire des grands speeches. Et t'as Ford Fairlane qui lui dit ne me donnez pas, je suis pas d'humeur en fait pour vos speeches, genre don't play the games en fait with me, quoi, c'est-à-dire ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, monsieur Fairlane. Et au moment où Ford Fairlane lui dit ne fais pas ça, le mec le fait. Et voilà, il y a déjà un détournement en 90 en fait de tous les tropes habituels en fait de ce genre de film, quoi, du grand méchant, de l'homme de main, le tueur à gages anglais qui est interprété par Robert Englund.
Alors
qui prend un accent anglais absolument dégueulasse, parce qu'en fait, si tu veux, tu vois bien que il est pas anglais du tout, quoi.
Ouais, ouais.
Et qui joue en fait en gros, il joue Vernon Wells dans Commando, quoi. C'est-à-dire plus ou moins, quoi, tu vois.
Et c'était pas censé être lui au départ.
Qui ils avaient casté pour
ce rôle-là, mais en tout cas, Robert Englund est arrivé en remplacement et c'est Rini Harlin qui l'a ramené parce qu'il venait de tourner avec lui Freddy, voilà. En fait, ouais. Mais
c'est un des rares rôles. Mais de Robert Englund en dehors de Freddy à cette époque-là.
Très clairement,
quoi.
Oui, c'est ça, Smiley, il s'appelle son personnage. Parce
qu'il rigole, en fait, il a une espèce de rire caractéristique. Là.
Bah oui, et quand tu réfléchis un peu, tu t'aperçois que c'est l'influence de Sin City, en fait, déjà. Ce type de personnage, de bad guy hyper.
Mais ça vient du film noir.
Out of this world, quoi, oui, mais la façon avec laquelle il le joue, c'est.
De manière hyperbolique, tu veux dire.
Hyper comic book, quoi. Mais tout ça, effectivement, c'est intéressant parce que c'est fait de. Encore une fois, par des gens qu'on est habitué à voir ailleurs. Le chef-op Oliver Wood, il va enchaîner effectivement avec avec Die Hard 2, mais aussi on le retrouvera sur Face Off, etc. Ouais. Enfin, genre, donc c'est voilà, visuellement, au niveau son, au niveau visuel, au niveau entre guillemets pognon, etc. On est vraiment dans une prod Silver en
des
béton
années
armé
80,
des années 80-90.
Parce qu'il y a beaucoup de filtres, beaucoup de comment dire de couchers de soleil,
ah,
de
tous
trucs,
les coins,
etc.,
voilà,
etc.,
ouais.
etc., etc. C'était vraiment genre en gros c'est Rainier Arlin qui se dit bon, je vais faire Tony Scott quoi. Je vais vraiment faire le flic de Beverly Hills 2 entre guillemets quoi. Si ce n'est que c'est pas du tout ça le film en fait. C'est-à-dire c'est même pas une comédie d'action comme le flic de Beverly Hills, c'est une comédie méta d'action qui va très loin en fait dans le détournement parce que et je pense que c'est aussi ça qui a perdu les gens à un moment donné sur ce film là quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est peut-être beaucoup plus courant quoi, mais par exemple il y a une scène où ils vont à l'enterrement de Bobby Black qui est donc le personnage de Vince Neil qui est en fait à cet enterrement là puisque c'est un cimetière. Il y a à un moment donné une poursuite en bagnole avec Ford Fairlane qui pique un corbillard.
Ouais.
Et dans le corbillard, il y a le cadavre d'une bimbo dont on vient de te suggérer qu'elle a été violée par et c'est un gag, hein, tu vois, par les deux mecs qui sont censés conduire le corbillard, quoi. Et en gros, dans la poursuite, le cadavre d'un seul coup, alors t'as un peu d'humour macabre, en fait, le cadavre tombe sur le siège passager. Ford Fairlane prend peur et à la fin de la poursuite, quand il plante la bagnole, le cadavre se réveille. Mmh. Et tu te dis, bon, en fait, c'est pur cinéma, pur n'importe quoi, pur. Voilà. Mais hyper ludique parce que fondamentalement, tu sais pas où le film peut aller. En fait, à partir du moment où tu as ce genre de séquence-là, ça devient jouissif. Mais c'est pour ça que je dis que. Je sais pas si les gens peuvent vraiment comprendre de quoi on parle sans avoir vu le film, en fait.
Non, mais...
Déjà qu'il est pas connu en France.
Il reste méconnu. Je pense que la meilleure façon avec laquelle on pourrait peut-être ramener les gens vers ce film-là, je pense que les joueurs de GTA peuvent comprendre ce film.
Parce que c'est un film de. Alors, ça voilà. On en a pas parlé.
Si vous avez joué
un vrai film de Los Angeles.
C'est un vrai film de Los Angeles. Si vous avez joué à GTA Vice City, en fait, il y a dans GTA Vice City des références à Ford Fairlane. Il y a toute une mission où tu dois t'occuper d'un groupe de rock pourri qui, basiquement, sont le groupe de rock qui fait le concert au début de j'ai plus leur nom, quoi, de Ford Fairlane. D'ailleurs, à propos des noms de groupes, il y en a plein qui ont c'est encore une fois des références au film de Joel Silver parce que il y a un groupe qui s'appelle Elena Heim The Attackers qui est en fait le groupe de Diane Lane dans les rues de feu. Et je vous ferai pas l'affront de vous dire à quoi fait référence le groupe The Nakatomi Boys Corps, voilà, dont on entend parler à un moment donné. Et il y a aussi un groupe qui s'appelle Alba Varden. Qui est le
bateau
le vaisseau de l'Arme Fatale 2 en fait,
ouais, le bateau dans
sud-africain,
l'Arme
Fatale 2, voilà. Donc si vous avez joué à GTA Vice City, en réalité vous connaissez en partie l'identité visuelle, musicale et l'esprit quelque part un peu n'importe où nawesque et violent et incorrect de Ford Fairlane, quoi.
Voilà. Et alors c'est sur ce film là donc que Joel Silver a casté Rainier Arlin pour faire l'arme fatale, je vais dire n'importe quoi, d'ailleurs deux. Et apparemment, donc, l'idée c'était qu'il avait très très peu de temps entre la fin du tournage de l'un et le début du tournage de l'autre, je crois une semaine, 10 jours. Donc il travaillait sur le film en même temps, faisait la prépa de Die Hard 2. Enfin, c'était en gros, gros travail de Stakhanovist aussi là-dessus, quoi. Mais je trouve que c'est un film qui est mieux foutu que Die Hard 2.
Par moment, c'est clair.
Ah, mais vraiment, hein, je trouve que. En fait, tu sens que c'est vraiment le premier film de studio pour Rainier Arlin. Et il s'est dit, je vais tout donner. Voilà. Lui, je pense qu'il a pas forcément. C'est-à-dire, ça le fait marrer. Je pense qu'il a compris quand même l'humour du film et tout. Mais. Il le filme tellement pas comme une comédie, tellement comme un film d'action presque premier degré, que t'en viens de demander s'il était vraiment totalement conscient en fait du grand méta Port Nawak en fait qui était en train de se mettre en place.
Bah, je pense pas qu'il soit totalement demeuré.
Je dis vraiment en fait même dans la façon de le filmer. Bon, je pense que Rainier Arlin n'a jamais été un réalisateur de comédie, mais même comme c'est quand même un film assez visuel.
Ça aurait été idiot de le filmer en déconnant. Le film fonctionne parce qu'il est fait sérieusement, parce qu'il est fait comme un vrai film d'action en étant pas du tout un vrai film d'action, quoi.
Mais à contrario, je pense justement que les fans de films d'action n'ont pas forcément compris le film parce que justement c'est filmé comme un film d'action et que d'un seul coup ils se disent mais Ouais. Pourquoi il y a un koala? Pourquoi il y a pourquoi il y a pourquoi il y a comment dire
pourquoi Zouzou Pétales est aussi bête quoi.
Ouais voilà, ouais. Pourquoi Priscilla Presley comment dire.
Oui, alors Priscilla Presley qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma hein,
non, mais elle venait de faire les Naked Gun,
ouais, elle est là-dedans et Lauren Holly aussi donc qui est le love interest du film
qu'on connaît pour The Man Number notamment et qui a été la femme de Jim Carrey à cette époque-là qui est moi je trouve alors outre le look éventuel
c'est le look années 80 voilà, c'est clair,
outre ce look là et que je le trouve magnifique en fait dans ce film, elle est très très belle quoi mais même le perso est super attachant parce que c'est presque en fait un personnage un peu pur tu vois au milieu de tout ce bordel quoi parce que juste elle Dieu sait pourquoi elle est amoureuse de Fort Fairlane.
Oui, il faut aussi préciser, mais ça, on s'en doute, hein, j'ai cité GTA, etc., qu'il y a un cynisme débordant dans le film et que tous les moments où, justement, on pourrait s'autoriser un petit peu de fraîcheur et de simplicité sont généralement brisés par une réplique ou un truc comme ça. Oui,
ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, de toute façon, il y a déjà, par exemple, il y a ce jeu, alors on spoil un petit peu, mais c'est pas très très grave, mais il y a quand même ce jeu, en fait, à la fin où Fort Fairlane, il a un flingue. Qui qui a un flingue où tu fais un mouvement, en fait il l'a planqué dans sa manche et quand tu fais un petit mouvement en fait ça ramène le flingue dans sa main quoi et qui est un truc je pense qui vient de Daniel Waters parce qu'ils ont déjà utilisé ça aussi dans Hudson Hawk avec le maître le maître d'hôtel des méchants là tu sais qui a des lames qui sortent de ses mains aussi quoi et pur truc de série B à la con quoi mais en fait assez fun parce que en fait du coup ils en jouent. C'est-à-dire que ce truc ne se déclenche que quand il en a envie, quoi. Ça marche quasiment jamais. Et à la fin, quand il se retrouve en face de Robert Englund et qu'il doit faire un combat mano à mano, le truc que tu vois, c'est pour ça que je parle de Commando, hein, c'est la scène finale de Commando, il le toise en lui disant « Mais pose ton arme, on va se battre mano à mano ». L'autre, en fait, il accepte. Et là, Fort Fairlane le bute avec un, comment t'appelles ça, en faisant sortir son flingue, quoi. Et c'est une démonstration jusqu'au bout du film. Que le personnage de Fort Fairlane, en fait, c'est un connard. C'est-à-dire, il joue pas du tout fair play, il s'en fout, tu vois, et voilà, quoi. Et c'est juste qu'il prend les autres pour des abrutis. Et il a raison, quelque part. Le film lui donne raison, puisque c'est des abrutis, quoi. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est, mine de rien, ça reste un film de studio, mais c'est, mine de rien, assez jusqu'au boutiste, finalement, dans sa démarche, en fait. Et je pense que c'est une des raisons du bide, même si... Andrew Dice Clay s'en défendra en disant que ça a pu marcher, et c'est peut-être le cas au début. Je pense que ça n'aurait pas forcément...
tenu sur la durée à l'époque. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un film qui a beaucoup plus de chances d'être compris pour ce qu'il est réellement, en fait.
Totalement. Comme Hudson Hawk, d'ailleurs. Un autre grand chef-d'œuvre méta du même genre. Quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour, plus ou moins.
Bah oui, allez, matez-vous Fort Fairlane.
Voilà, c'est tout ce qui reste à faire.
Vous n'avez pas besoin d'écouter nos conneries. Voilà. Le film parle pour lui-même.
Très grand film. Ouais. Merci Rafik.
Merci Steph.
Merci Alain, merci à la technique. Je le regarde pour pas l'oublier. Merci aux auditeurs, merci aux tipeurs qui nous soutiennent depuis maintenant quelques mois. Pour nous soutenir, vous pouvez aller sur Tipeee.com. Tipeee c'est 3e.com et les mots-clés sont Capture Mag. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles hein, de podcast. Je pense évidemment à Acast, c'est notre plateforme principale pour le flux RSS. Mais évidemment sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur YouTube aussi, on fait des vidéos. Hein. Normalement, Fort Fairlane aurait dû être une vidéo. Mais Rafik m'a pris par les sentiments et je me suis dit, bon, on verra peut-être un jour, je pourrais quand même faire la vidéo de Fort Fairlane. Quoi. Je voulais faire une vidéo sur le méta, en fait. Moi, c'était mon idée principale. Mais bon, on peut commencer par un podcast, voilà. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine avec un film qui sera probablement moins bon que Fort Fairlane parce que Fort Fairlane est un chef-d'œuvre. Voilà, merci à vous.
Un-fucking believable.
You're a poet and didn't know it. That's what I...